Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà avant 14, l'accordéon commence à prendre une place de plus en plus importante. Mm-hmm. Puis les gens s'intègrent à la vie parisienne. Donc les gens, bon bah, ils veulent un répertoire plus large. Et si tu veux avoir un bal un peu plus, avoir plus de clientèle, tu dois faire une musique
qui
plaît au plus grand nombre, puisque Émile Vacher, qui est considéré comme le créateur du genre musette, enfin, c'est la personnalité qui a émergé à ce moment-là, par ses compositions, son talent, sa virtuosité, sa technique, ses compos, etc. C'est un peu la référence de cette première période du musette. Il n'est pas le seul, mais disons que c'est lui qui a été qui s'est retrouvé en avant. Il s'est retrouvé quand même figuré, je dirais, ce courant musical.
Il est resté sur le devant de la scène.
Il est réuni jusqu'aux années 30. Jusqu'aux années 30. Donc Émile Vacher, il a commencé à montrer dans un bal qui était tenu par une auvergnate. C'était la maison, le café Dave Push. Donc. C'est un bistrot auvergnat qui était tenu par des auvergnats, mais ils avaient embauché un genre d'accordéon qui jouait tout, qui n'était pas spécialement auvergnat, et qui faisait danser une musique populaire qui n'était pas auvergnate. Mais bon, comme beaucoup d'auvergnats n'étaient pas bistrot à Paris, en région parisienne, c'était pas forcément des musiciens, des orchestres auvergnats qui jouent dans le bistrot auvergnat. Il n'est pas aussi cloisonné.
D'accord, ouais. C'est pas aussi cloisonné qu'on peut dire.
Voilà, c'est ça. Petit à petit, bon, bah, il était gamin quand il a commencé. Il était venu. Et donc, après, il est venu sur Paris jouer dans les balles. Il a monté des orchestres avec des bouts de guitare, après banjo. Il y avait une lamine harpe, enfin, il y avait piano, il y avait. Ce qui est intéressant dans le jeu de Vacher, c'est que. Par rapport aux Italiens qui jouaient assez legato, tu vois, qui étaient un peu. Lui, c'était. Il s'est inspiré beaucoup du jeu de cuivre. Comme au fin 19e, tu avais beaucoup d'orchestres, d'orphelins, de cliques, enfin, d'orchestres de cuivre, de musique champêtre, avec flûte, cornet, tous ces instruments. Pistons et compagnie. Chaque ville avait son orchestre, sa petite fanfare, sa musique. Et avec cuivre, parce que bon, c'est vrai que tu pouvais jouer en extérieur, c'est une musique qui est assez sonore. Il n'y a pas de micro, évidemment. On oublie toujours qu'on a fait de la musique avant les micros. Donc, pour ça que les cornemuses étaient appréciées, c'est que tu avais un son assez puissant et que la fonction de. Enfin, si tu veux te faire entendre, il faut que ça sonne. Il faut qu'il y ait quand même un peu de décibels pour que le son porte. L'idée, enfin le style Vacher, c'est intéressant parce que c'est un des premiers qui a commencé à attaquer ses notes avec la taratatata, un peu comme je le ferais en piston par exemple. Donc ça donne un certain brillant, une énergie, une attaque, de la netteté dans les attaques. C'est le premier qui a poussé dans ce style-là, avec des notes bien détachées, bien attaquées, enfin un rythme spécial, qui rend vachement bien, par exemple, dans les basses, enfin dans les java. C'est-à-dire pour marquer les suspensions, les appuis, etc. Donc il était très fort dans ce domaine. Et il a fait école. Alors que les Péguri, etc., ils ont suivi, mais c'est pas eux qui. Eux, ils étaient plutôt dans les arrangements. Belles mélodies, belles harmonies.
Péguri, il était avant Vacher.
C'est la même époque.
La même époque, ouais.
C'est la même époque. Péguri, c'est le frère aîné d'une famille. Il y avait Michel, il y avait je ne sais plus les prénoms des autres, ça m'en vient pas. Enfin, ils étaient plusieurs frères. Ils ont enregistré pas mal de 78 tours. Charles Péguri, assez peu, en fait. Pas grand-chose. Et les frères, d'ailleurs, enregistraient plus. Il y a un livre écrit par le dernier Péguri, je cherche le prénom, j'en ai pas trouvé, qui a fait un livre qui s'appelle Du Bouge au conservatoire, qui est un peu une histoire de l'accordéon.
D'accord.
Ce qui est un peu une référence pour ça. Il mythifie un peu l'histoire de sa famille, mais en même temps, il apporte plein de, de connaissances. Très bon musicien.
Ouais.
Je dirais que c'est un peu après. Tu vas trouver les gens comme Joseph Colombo, après Tony Morena et d'autres. Enfin, ça commence là. cette partie du musée d'origine italienne.
Ouais.
Qui a marqué, je dirais, la couleur, les harmonies, les thèmes, enfin, les mélodies. Il y a une grosse inspiration du Musette qui vient d'Italie. Je pense que c'est aussi, ça remonte, ça, géographiquement, ça va jusqu'à une forme classique, même une musique populaire de Naples, du sud d'Italie. Enfin, tout ça, c'est remonté du Fredo Gardoni, pas mal de. Non, il y en a plein en fait, des accordéonistes italiens qui sont venus. Ces gens-là, c'est les années 20.
Okay.
Ça a commencé au début du siècle, je dirais, à la Belle Époque, et ça s'est continué jusqu'aux années 20, 30, etc.
Okay.
Il y avait beaucoup d'accordéonistes italiens. Et puis il y avait une colonie italienne sur la région parisienne. Cavana, il raconte. C'est après, mais. Il était sur Nogent-sur-Marne, ce coin-là, c'était le camp, une des banlieues, il y avait beaucoup d'Italiens.